Quand on est mort, on est bien mort. Eh bien, aujourd'hui, la parole du Christ vient nous dire que ceci n'est pas vrai, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, que la mort a été vaincue. Et ceci est merveilleux. J'espère que vous le croyez et que vous le savez, que c'est merveilleux que Jésus-Christ est ressuscité. En prolégomène à la conférence, j'aimerais que nous prions ensemble la lecture du psaume 104. « Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant la menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève. Ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé, avec lequel tu te joues dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent, tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elles tremblent, ils touchent les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Jusqu'ici, notre lecture. Le beau sujet, grâce et créativité, présuppose Dieu comme l'auteur, la source, le fondement de toute réalité. Il ne saurait y avoir d'existence humaine sans le Dieu qui, à chaque instant, fait grâce. Il ne saurait y avoir de créativité hors le Créateur. Ainsi, vous le voyez, l'être et le faire sont de par Dieu. Il nous est agréable, salutaire, c'est notre joie et notre salut de saluer au milieu de nous Dieu. Adresser cette salutation à Dieu, c'est rejoindre tout à la fois la parole de l'origine, au commencement, Dieu créa, et trouver là le fondement de toute créativité, et la parole faite chair, résumée et sommée de toute grâce. Ma conférence s'articulera autour de deux parties principales. La première partie aura pour titre « Création et créativité ». La seconde partie « La relation entre la créativité et la grâce ». Première partie « Création et créativité ». Dans cet esprit, les deux affirmations massives qu'il nous faut poser sont les suivantes. Premièrement, Dieu seul est. Le verbe être ne devrait en vérité se conjuguer qu'ayant Dieu pour sujet. Dieu seul peut dire « Je suis ». Rappelez-vous la définition de Dieu que Dieu donna à Moïse. « Je suis celui qui est ». Seul Dieu peut dire « Je suis ». Seul Dieu est. Seul Dieu est substance, essence, réalité se suffisant à soi-même. L'univers, lui, il n'est pas, il existe. La seconde affirmation massive, seul Dieu crée. Il ne saurait y avoir de création par nous que par analogie. Dans la Bible, Dieu est toujours sujet de ce verbe créer. C'est le verbe bara en hébreu, il créa, qui est employé. Ce verbe extraordinaire, quasi intraduisible dans nos langues européennes, indo-européennes, bara, qui est le verbe de l'agir divin, qui est l'action propre de la divinité, réservée à Dieu seul. Lorsque Dieu crée, il y a uniquement ce verbe bara employé que pour lui. Quand l'homme fait et crée, il y a d'autres verbes. Qu'est-ce que Dieu crée ? Dans la Bible, Dieu Bara crée les cieux et la terre, les anges, l'homme, les miracles de l'Exode, les cieux nouveaux et la nouvelle terre, un cœur pur. Il est étrange et beau, n'est-il pas vrai, que ce soit ce verbe précisément qui soit employé dans cette belle prière du psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Par tous ces contextes, nous voyons que le verbe du créer divin, bara, il créa, désigne une création sans effort ni peine. Dieu crée souverainement, librement. Dieu, en créant, n'a besoin ni d'un partenaire, ni d'un opposant, ni d'un donné quelconque. Lui, il crée ex nihilo, à partir de rien. Si l'on peut dire que les œuvres des autres jours sont des créations médiates, l'œuvre du jour premier est une œuvre immédiate, véritablement, à partir de rien. Avec ce verbe « bara », « il créa », apparaît le sens de nouveauté absolue, quelque chose d'inédit, d'imprévisible ou imprévu, jamais réalisé dans le passé. J'ouvre ici une parenthèse qui ne nous éloigne pas du reste de notre sujet, mais nous y ramène. Pour vous signaler ce fait également troublant, il y a un verbe réservé au pardon divin en hébreu. C'est le verbe salar, pardonner. Ainsi, vous le remarquerez, c'est le même registre. Dieu seul fait grâce. Dieu seul est. Dieu seul crée. Ces deux affirmations introduisent quatre implications. La première implication: si Dieu est créateur, véritablement et étymologiquement le poète, ô poietès du verbe grec poieo, créer, le seul poète, alors le monde n'est pas une émanation de Dieu selon l'idée grecque. Dieu n'est pas un générateur ou un producteur. La parole créatrice du commencement marque la distance entre le créateur et la créature. La Bible affirme alors un concept que le génie grec n'a pas su découvrir, celui d'une création. L'idée d'une création contraste aussi avec le monde propre de la Bible, le Proche-Orient, qui voyait en Dieu le combattant musclé, arrachant par une lutte titanesque le cosmos au chaos, un combat contre une matière hostile et indépendante de Dieu. La doctrine de la création implique à l'évidence que le monde n'est pas Dieu, que le monde s'use et passe, 1 Corinthiens 7, 31. La sainte écriture de notre Dieu oppose un refus catégorique à tout panthéisme plus ou moins stoïcien qui ferait de Dieu et du monde, au fond, la même chose. Par la création qui sort des mains du Créateur pure et bonne, il y a aussi le refus de tout dualisme gnostique. La création mauvaise, matière rebelle et éternelle, éternelle comme Dieu, à partir duquel Dieu devrait travailler. Si le monde n'est pas Dieu, il n'est pas hors de Dieu. Certes, Dieu ne dépend pas du monde, mais le monde dépend de Dieu. L'idée de la création permet à Dieu d'être dans le monde, sans être du monde, d'être transcendant, au-delà, tout autre véritablement qu'aucun autre. L'Élohim, le Créateur du chapitre premier de la Genèse, mais Dieu est présent au monde. Il peut, tout en lui faisant face, être dans le monde, être Yahvé, Adonai, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui se révèle et parle, le Dieu du chapitre 2 de la Genèse. Le Dieu de la transcendance est aussi le Dieu de l'immanence, le Dieu de la condescendance. Deuxième implication. Si Dieu est la seule réalité, le fondement de l'être, le seul véritablement qui est, alors le monde, dans sa diversité, doit avoir une unité. Et ce doit être Dieu. Au reste, le mot univers, un et divers, rend bien cette vérité. L'affirmation de Dieu pose la réalité du monde et l'enracine en Dieu. Le réel devient rationnel parce que Dieu est. Cette unité du cosmos assurée par le fait du Dieu qui est fonde toute notre épistémologie, notre doctrine de la connaissance et toute notre science. Mes amis, si le monde est absurde, fait de hasard, alors il n'y a plus de cohérence, alors il n'y a plus de science. En pratique, et sans le vouloir, et sans le savoir, le savant athée part du présupposé chrétien, l'univers est un. C'est à partir de cette unité seulement qu'il peut découvrir le savant, les lois et s'y fier. Ainsi, comme vous l'aurez remarqué, Dieu peut être étrangement présupposé et nié tout à la fois. Troisième implication. Au mystère incréé de Dieu, un et multiple, comme seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, cette équation, cette mathématique divine qui défie tous nos calculs, 1 égale 3, 3 égale 1, à ce mystère incréé de Dieu correspond le mystère créé de l'univers qui a aussi son mystère de diversité et d'unité. Ce caractère multidimensionnel de l'univers, normé dans son unité imprimée par Dieu, se retrouve dans ce microcosme qu'est l'homme. Partant de la création, et pour parler de la créativité, il faut nous arrêter à l'homme. À l'homme, cet homme qui va lui aussi créer. Toutes les sciences, et principalement l'anthropologie, contribuent à la connaissance de l'homme. Elles nous apprennent des tas de choses sur l'homme, mais elles tournent autour de lui. Aucune science, pas même la théologie, cette science prima inter pares, pourtant, ne peut nous dire ce qu'est l'homme, qui est l'homme, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce un homme, qui est cet homme, qui es-tu, toi, même le connais-toi toi-même est un appel à l'impossibilité. Qui suis-je ? Je me lève, je pense, je sens, mais qui est ce je, ce moi, ce cœur de l'homme qui commande ma vie, comme nous le verrons demain ? Personne, en vérité, ne peut le dire. Personne ne peut dire qui je suis. L'homme est indiscernable, inaccessible, absolument indescriptible. Le nom de ce je, seul Dieu le connaît. Je te connais par ton nom. Et c'est le secret de Dieu. L'homme doit être saisi comme image de Dieu. Je suis un moi à cause d'un autre je, à cause d'un autre moi, le Dieu personnel. Seul Dieu me connaît par mon nom. Et vous savez cette phrase si belle de saint Augustin, mon cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Quatrième implication. Pour parler de créativité, il faut mettre l'homme à sa vraie place dans la création. L'homme, image de Dieu, est appelé par Dieu à être ce vice-roi de la création de Genèse 1, verset 26. Si l'homme est responsable de la création, c'est qu'il l'est devant quelqu'un. Ce n'est pas l'homme qui donne un sens au cosmos, c'est Dieu qu'il a rendu connaissable pour l'homme. La connaissance de l'homme, celle de lui-même et celle de l'univers, est toujours une connaissance dérivée. Au total, comme vous l'aurez remarqué, la doctrine de Dieu, la doctrine de la création, l'anthropologie biblique, la doctrine de l'homme, font obstacle à ce qu'il y ait création quand il s'agit du faire de l'homme. De même que l'homme ne peut survenir et être qu'il ne peut pas dire « je vis », mais qu'il est vécu. De même, personne ne peut créer ex nihilo comme Sa Majesté Dieu. Le point de départ de l'action de l'homme, son vrai point d'Archimède, c'est le créateur de l'univers et le recteur de l'univers. Il n'y a pas, c'est un mensonge, il n'y a pas d'autonomie de la geste humaine. Elle est toujours dérivée et relative. Elle présuppose le principe extérieur et supérieur, Dieu. L'homme n'a pas une liberté créatrice autonome. Ainsi, nous sommes, vous le voyez, tenus dans le binôme qui nous est donné pour thème ce matin, le mot de créativité lorsqu'il s'agit du faire de l'homme. J'arrive à la deuxième partie, la créativité en relation avec la grâce. J'avais même envie de lui donner pour titre « Avec la créativité, tout est grâce ». Pour commencer cette deuxième partie, je voudrais définir deux règles de la créativité. Tout est grâce. L'œuvre de Dieu est un don, jamais un donné. Ainsi, par grâce, Dieu est à l'origine de la créativité. L'homme n'est jamais pleinement lui-même que lorsqu'il crée quelque chose. Par la créativité, le triangle relationnel Dieu, l'homme, la création devient une sorte de rectangle Dieu, l'homme, la création, la culture. Dieu distribue ses dons selon sa libéralité. La créativité est paradoxalement tout le travail de Dieu qui équipe l'homme, lui permet par la permanence de ses lois et les inspirations de son esprit d'être créatif. Elle est tout aussi le travail de l'homme, sa responsabilité. Si Dieu est à l'origine de toute créativité, la première règle de la créativité sera se conformer à la volonté du donateur. Première règle de la créativité, se conformer à la volonté du donateur. La créativité, don de Dieu, à Dieu pour fin. La finalité de la créativité est d'essayer de réaliser la mission que Dieu nous a confiée. La finalité de la créativité est de rendre honneur et gloire à Dieu. Et c'est la deuxième règle de la créativité, agir pour la plus grande gloire de Dieu. Deuxième règle de la créativité, agir pour la plus grande gloire de Dieu. Grâce et créativité. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, il faut toujours établir une distinction entre la grâce générale de Dieu et la grâce spéciale de Dieu. La grâce générale de Dieu est celle qui s'adresse à tout le genre humain en général et qui a Adam puis Noé comme médiateur. La grâce spéciale de Dieu et celle qui s'adresse spécifiquement aux élus et qui a notre Seigneur Jésus-Christ comme médiateur. Cette distinction dans la dispensation de la grâce va nous donner le plan de la seconde partie de cet exposé. La créativité sera différente selon qu'elle sera en relation avec l'une ou l'autre grâce. Premièrement, la grâce générale de Dieu est la créativité. Par grâce générale ou grâce commune, il faut entendre non pas l'action salvatrice de Dieu retirant l'ensemble de ses sauvés de la perdition, mais son action sur l'univers créé pour en combattre toutes les altérations. Dans le gouvernement de sa providence, Dieu prévoit d'agir par sa grâce générale au maintien de l'ordre de nature. L'univers est parcouru par l'activité incessante de Dieu. Elle s'exerce en faveur de l'homme irrégénéré pour lui permettre à chaque instant de ne pas devenir un sous-homme à cause du péché. Elle limite les dégâts du péché, tant sur les personnes, vous voyez la marque sur Caïn, que sur l'ordre social. Elle empêche le péché de suivre sa logique, son engrenage fatal. Dieu ne laisse pas le mal agir complètement. Si Dieu retirait le bien de sa grâce générale, alors tout s'écroulerait. Sans la volonté efficace du Créateur, l'univers retomberait dans le néant. Au total, Dieu, par sa grâce générale, veille à la conservation, à la protection et à la maintenance et de l'univers et du genre humain. C'est sa tâche de gouverneur et de recteur du monde. Mais il y a plus. Cette grâce générale a un deuxième rôle. Elle inspire le genre humain. Elle est fondatrice de toute créativité. Elle autorise et fonde l'art. À chaque homme est donné un don, une mission. Le prêtre de Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, a compris cela lorsqu'il s'écrit « Tout est adorable ». Dieu agit dans le profane par sa grâce générale, où elle se cache et se trahit. La créativité en relation avec la grâce générale devient rapidement apostate. Elle s'empare du monde sans passer par la foi en Dieu. Cette créativité va contourner l'origine de la créativité en ne se conformant pas à la volonté du divin donateur, et elle manquera par là à la première loi sur la créativité. Elle oubliera aussi son motif final, rendre gloire à Dieu, la deuxième loi de la créativité. Au lieu d'exercer sa créativité en se fondant en Dieu, l'homme naturel, sans la révélation directe de Dieu, se détourne de Dieu pour prendre appui sur une ou plusieurs autres choses de l'univers, sur un ou plusieurs aspects de la vérité. Et c'est une conséquence du péché. De la même manière que l'on ne peut se soulever soi-même, de la même manière, on ne peut considérer le monde en se plaçant dans le monde. On absolutise un aspect du créé au lieu de prendre pour point de départ un principe extérieur, Dieu et ses lois, et c'est l'autonomie humaniste. La créativité devenue immanentiste, qui revendique la suppression de Dieu, qui est vu comme le concurrent de l'activité humaine. C'est la créativité pour la créativité. La créativité qui croit à sa valeur propre, qui croit valoir quelque chose en soi, indépendamment de Dieu. Alors que vous le savez, et c'est l'humour de la situation, nous l'avons déjà dit, il y a ce paradoxe, la créativité autonomie reste possible que par la grâce de Dieu, en l'ignorant, l'apostat créatif naît et ne crée que par Dieu. Après cette partie sur la grâce générale et la créativité, la grâce spéciale et la créativité. La grâce générale de Dieu est au service de la grâce spéciale. Cette grâce spéciale, c'est celle que nous acclamons personnifiée dans le Sauveur ressuscité. Cette grâce est rédemptrice. Elle est l'action salvatrice de Dieu conduisant par Jésus-Christ les pécheurs à la gloire éternelle. La créativité, en rapport avec la grâce spéciale, est l'action spécifique du chrétien. Il ne suffit pas d'être né de nouveau, d'être chrétien. Il faut penser et agir en chrétien. Il est possible d'être chrétien et de ne pas penser et créer d'une manière consistante et conséquente avec la foi chrétienne. Par exemple, notre Seigneur dit dans Marc 8 au verset 33, tu penses comme un homme pense, mais pas comme Dieu pense. Nous sommes tellement immergés, baptisés, pour le coup, dans un monde de pensée apostate, sécularisée, que penser et créer en chrétien n'est pas automatique. Il nous faut constamment critiquer et réexaminer nos idées, nos actions et nos institutions. C'est ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, dans les versets 1 et 2. « Ne vous conformez pas au présent siècle mauvais, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et le grand philosophe catholique Jacques Maritain ne fait que redire cela par sa formule un peu choc. Les pentes de l'intelligence moderne sont contre nous, mais les pentes sont faites pour qu'on les remonte. Tout ceci nous montre, à l'évidence, que la créativité de l'homme, comme son cœur et sa pensée, doit être convertie. Atteinte par le péché, elle doit venir au pied de la croix pour retrouver sa raison d'être. Le chrétien comprend alors que sa seule manière d'être créatif, pour ne pas dire créateur, est de recréer selon ce que Dieu a posé dans sa création. Le devoir du chrétien est d'abandonner la créativité autonomie, qui est la créativité de ce monde, qui fait toujours retomber dans les mêmes ornières, dans les mêmes esclavages, pour découvrir la créativité théonomique qui lui permet d'agir selon les principes de Dieu et de la Sainte Écriture, parole de Dieu, lesquels peuvent modeler dans son contenu, son style, ses présuppositions et ses conclusions, toute pensée et toute action. Il n'y a pas de créativité sans présupposition. Et la présupposition du chrétien, c'est le motif biblique fondamental, création, chute, rédemption. La créativité, selon Dieu, reconnaît que Dieu est Dieu, que le monde est créé, qu'il a chuté, que Dieu, pour le restaurer et le sauver, parle par sa parole incarnée, Jésus-Christ, et par sa parole inscripturée, toujours actuelle, la Bible. Retrouvant par la parole de Dieu la volonté du donateur de toute créativité, le chrétien obéit, parce qu'il est chrétien, à la première règle de la créativité que nous avons énoncée. Il obéit aussi, touché qu'il est par la grâce spéciale, à la deuxième règle de la créativité qui devient son but, la glorification de Dieu. Agir dans sa crainte, c'est œuvrer en sagesse. Il est une personne qui se cache ici, dans tout ce propos. Sans elle, rien n'a pu être et il n'y a pas de créativité. Je veux parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité et nous fait découvrir les possibilités que nous avons. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté qui peut agir de bien des manières. L'homme, quelquefois, est soudainement éclairé, et c'est lui qui est là. Sa liberté de Saint-Esprit est particulière. Si elle nous délivre du légalisme, elle n'est pas hors la loi. Il ne faut pas, mes amis, opposer la grâce et la loi. Croire que la grâce a barre sur l'Écriture, que le Saint-Esprit peut me conduire indépendamment de l'Écriture. Or, il n'en est rien. La grâce nous fait recevoir comme principe de libération, comme liberté de créativité, la loi de Dieu. Le Saint-Esprit me ramène dans la mesure de ma fidélité, toujours à l'Écriture. Quelques mots de conclusion. à la sécularisation de la créativité autonomie. Il faut opposer la vision de la seigneurie de Jésus-Christ sur tous les domaines du savoir et du faire, dans chaque partie de la vie. Sa souveraineté sur le monde mobilise le chrétien à prendre ses responsabilités de chrétien au sein des rouages de notre société. La question sans cesse que le chrétien doit se poser: que signifie être chrétien dans tel domaine? Comment agir et penser d'une manière spécifiquement chrétienne? Comment voir, agir comme Dieu voit et agit? Si véritablement Jésus-Christ est le Seigneur, ton Seigneur, alors un appel est adressé à toi pour que tu rompes radicalement avec tout ce qui entre en conflit ou même compromet sa souveraineté. Il faut entrer dans la radicalité de Jésus qui disait: si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Le fondateur de l'Université libre d'Amsterdam, Abraham Kuyper, né en 1837, mort en 1920, qui fut également, et c'est à noter, le premier ministre de son pays, a développé ce principe de la foi ayant une portée universelle. Dans son message d'ouverture de l'université, de ce message, j'extrais ces quelques mots pour conclure. Il n'y a pas un domaine dans toutes les sphères de la vie dont Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Il n'y a pas un domaine dans toutes les sphères de la vie dont Christ ne puisse dire « c'est à moi ». J'ai dit.